le magazine des Nations Unies.
Le processus électoral en RDC, Leïla Seroghi appelle les acteurs politiques congolais à tout mettre en œuvre pour sa réussite. La chef de la MONUSCO s'est exprimée jeudi dernier devant le Conseil de sécurité à New York. Et fin d'épidémie à virus Ebola dans l'Équateur, la maladie avait affecté principalement les zones de santé de Bikoro et d'Iboko. C'est le ministre de la Santé qui a déclaré la fin de l'épidémie la semaine dernière à Kinshasa. L'Association des correspondants de presse des Nations Unies, UNCA, lance la 23e édition du concours annuel de la meilleure couverture des Nations Unies, de ses agences et de ses opérations de terrain. Trois prix récompenseront les lauréats. Vous aurez des détails dans ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, ouvrons ce numéro par ce vibrant appel de la chef de la MONUSCO. S'exprimant jeudi dernier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, Leïla Seroghi a appelé les acteurs politiques congolais à tout mettre en œuvre pour l'aboutissement heureux du processus électoral en cours. Cet appel est sans nul doute lié à quelques difficultés que connaît le processus électoral congolais. Et je vous invite à suivre cet extrait de ses propos recueillis par nos collègues de la radio des Nations Unies à New York.
À moins de 5 mois de la date pour la tenue des élections le 23 décembre prochain, les préparations ont atteint un tournant important avec l'ouverture des bureaux de réception des candidatures pour les élections présidentielles et législatives. Ces scrutins continuent de susciter de grandes attentes, tant au sein de la population congolaise qu'au niveau de la communauté internationale, car ces élections revêtent d'importants enjeux dans la perspective de la consolidation de la stabilité de la RDC et de toute la région. Alors que des progrès significatifs ont été enregistrés pour respecter les étapes critiques inscrites dans le calendrier, le processus électoral continue de souffrir de suspicions et de méfiance entre la majorité et l'opposition et entre l'opposition et la commission électorale CENI. La République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à toutes les parties prenantes de saisir cette occasion historique pour permettre la tenue d'élections inclusives, transparentes et crédibles le 23 décembre prochain, afin d'offrir un futur plus stable à la RDC, aux Congolaises et aux Congolais.
Dans son exposé devant le Conseil de sécurité, la chef de la MONUSCO a parlé des griefs qui minent le processus électoral en cours en RDC. De quoi s'agit-il? Explication avec vous, Alain Hirung.
Les griefs de l'opposition portent entre autres sur la machine à voter, le fichier électoral et la non-résolution du remplacement du délégué de l'UDPS au sein du bureau de la CENI. Ces griefs ont été récemment réitérés par un groupe de 5 partis et plateformes politiques d'opposition comprenant l'UDPS, Ensemble, l'UNC, le MLC et la Dynamique. À travers une déclaration conjointe publiée le 23 juillet à Kinshasa. Cette déclaration exige également le retour des réfugiés emblématiques et la libération des prisonniers politiques dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de décrispation prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, a dit Mme Seroghi.
Santé à présent, fin de l'épidémie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé l'a déclaré officiellement mercredi à Kinshasa au cours d'une rencontre à laquelle ont assisté des officiels congolais, des experts en santé, des prestataires de terrain et des partenaires nationaux ainsi qu'internationaux. Occasion pour le ministre Oli Ilunga de remercier tous ceux qui ont bataillé pour venir à bout de l'épidémie. Jean-Pierre Ilali Koko pour le reportage.
La 9e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo est officiellement terminée.
Ce mot prononcé par le ministre de la Santé traduit la réussite, mieux le résultat d'un travail d'équipe qui aura duré 2 mois et 17 jours. Et c'est l'occasion pour le ministre Oli Ilunga de remercier les artisans de cette victoire.
Je tiens à féliciter les professionnels de santé nationaux et provinciaux déployés sur le terrain.
Pour le docteur Ilunga, les épidémies offrent des opportunités d'identifier les faiblesses du système de santé en RDC, de le corriger en vue de les rendre plus forts et plus résilients. Comment alors la RDC s'en est-elle prise pour vaincre cette maladie? Le directeur général de l'OMS, Adamo Ghebreyesus, donne sans détour la recette.
Le gouvernement a fait montre d'un grand leadership. En particulier, le ministre de la Santé a été rapide dans sa réponse.
Les artisans de la victoire sur Ebola ont reçu les certificats d'excellence de main du ministre. Parmi eux, le professeur Jean-Jacques Mouyembe de l'UNERB.
J'ai reçu ce diplôme-là d'excellence. Ça m'a fait un grand plaisir. Une réussite dans ma carrière, d'avoir pensé aux générations futures.
Notons que 21 personnes ont survécu à cette épidémie.
UNCR, Association des correspondants de presse des Nations Unies, lance le 23e concours annuel de la meilleure couverture des Nations Unies, de ses agences ainsi que de ses opérations de terrain. Selon Abidjan.net qui livre cette information en ligne, 3 prix seront décernés aux lauréats. Des détails avec vous, Honoré Missinga-Kalala.
Ce concours concerne tous les médias, presse écrite, télévision, radio, presse en ligne et le web. Selon la source, les 3 prix qui récompenseront les lauréats sont le prix Elisabeth Newfer, prix parrainé par la fondation Alexander Bodini pour la presse écrite et les médias en ligne. Il y a également le prix Ricardo Ortega pour la couverture radio-TV de l'ONU et de ses agences. Et enfin, le prix mondial du prince Albert II de Monaco et de l'association des correspondants de la presse de l'ONU pour les changements climatiques. Ce dernier prix récompense la couverture du changement climatique, de la biodiversité ainsi que de la gestion des ressources en eau. Autre précision, les travaux à présenter doivent avoir été publiés ou diffusés entre septembre 2017 et août 2018. Ils pourront être présentés dans l'une ou l'autre de ces langues, le français, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol ou le russe, et l'envoi sera électronique. Le 23e concours annuel de l'UNK marque en même temps, selon la même source, le 70e anniversaire de cette association.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO a organisé du 24 au 25 juillet à Dungu, dans le Haut-Uele, un atelier sur la responsabilité des hommes de médias lors de manifestations publiques pendant la période électorale. Ce forum a ciblé les journalistes du Haut et du Bas-Uele. C'est un dossier signé Anselme Massoua.
Une trentaine de journalistes est venu des territoires de ces deux provinces, à savoir Wambarungu, Wacha, Faradje, Dungu, Nyangara pour le Haut-Uele et Poko pour le Bas-Uele, ont pris part à cette rencontre. Une rencontre motivée par le souci de faire des journalistes et des acteurs importants durant cette période du processus électoral. Jean-René Mbangu, officier du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Dungu.
Le journaliste joue un rôle important dans la société et en particulier pendant cette période électorale. Beaucoup de milliers de personnes qui les écoutent, donc c'était très important de notre part de pouvoir essayer de les outiller sur les devoirs et les obligations des journalistes, sur les manifestations publiques, droits de l'homme, le processus électoral, l'utilisation des forces publiques pendant la manifestation, pouvant les permettre à bien faire le travail pendant cette période.
Selon les participants, cet atelier les invite à adopter un comportement adéquat dans l'exercice du métier. Martin Angongo de la radio communautaire Aredji de Ouattara et Pascal Mbolou de la radio communautaire Bolingo de Poko expliquent.
Il nous a permis de renforcer notre capacité à rester neutre et à donner la vraie information en cette période électorale. Sans afficher votre couleur politique, je sais pas moi, religieuse, en réunissant tous les sons des cloches nécessaires. Ne pas rester en solo lorsqu'il s'agit de traiter une information. Associer toute la rédaction.
Un journaliste lors de la manifestation publique, il ne doit pas être parmi les manifestants. Ne pas être à la première position, ne pas aussi être à la dernière position. Il va utiliser des stratégies qui vont lui permettre de récolter bel et bien ses données.
Pour certaines personnes averties, avec les matières acquises, le journaliste est appelé à faire comprendre à la population les projets des sociétés des politiciens durant cette période du processus électoral. Jean-Pierre Bagoudekia, président de la commission diocésaine Justice et Paix de Dungu.
S'ils sont bien formés en matière des élections et récolte des données, je pense qu'ils pourront à leur tour orienter aussi la vision et même les choix des électeurs. Nous savons bien que tout le monde cherche à gagner auprès de la population les souverains primaires. Mais s'ils n'ont pas des informations suffisantes, fiables, fiables et qui peuvent aider la population à distinguer un mateur d'un bon politicien qui a les projets de société, je pense qu'on risque de déboucher sur les fiascos.
Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, ONU SIDA et le Cortège se félicite de la promulgation vendredi 20 juillet dernier de la nouvelle loi portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Cette loi qui modifie et complète celle du 14 juillet 2008 met un accent particulier sur le dépistage des mineurs et adolescents. Le processus de plaidoyer du consortium de la société civile aux deux chambres du Parlement a été expliqué à la presse au cours d'une séance de restitution mardi dernier à Kinshasa. Maître Serge Tamundele de la commission juridique revient dans cet entretien avec Jean-Pierre Elalikoko sur l'importance du dépistage de jeunes. Il explique également les articles concernés dans cette loi. Suivez.
Maître Serge Tamundele, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous intéressez-vous au dépistage de jeunes en ce qui concerne la VIH-SIDA?
Le dépistage de jeunes, pourquoi? Parce que il a été constaté aujourd'hui par rapport à la riposte au VIH que la tranche d'âge de mineurs ou de enfants, dont des 19 à 17 ans, sont très exposés au VIH. Et nous avons un plan stratégique national de lutte contre le VIH actuellement, génération 2018-2021, qui prend en compte la question des jeunes. Et ces constats de la prévalence des taux de VIH auprès de jeunes pose problème dans notre société. Mais de l'autre côté, il a été constaté une barrière légale par rapport à ce dépistage sur un mineur. C'est comme ça que la société civile estime, pour donner des réponses efficaces à cette pandémie, il faut mettre aussi ensemble, prendre en compte la question de mineurs par rapport au dépistage.
Dix ans après sa promulgation, la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH vient d'être modifiée par une autre loi promulguée par le chef de l'État vendredi dernier. Alors, quels sont les articles qui sont concernés par cette modification de loi?
On remercie le chef de l'État parce qu'il vient encore une fois de plus promulguer cette loi qui modifie et qui complète la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec VIH. Là, il y a quatre articles qui ont été touchés. L'article 37 qui concerne le dépistage des enfants ou de mineurs à VIH, l'article 39 qui concerne l'annonce de l'examen du VIH fait sur un mineur, l'article 41 qui sanctionne tout comportement de transmission à VIH à autrui, et enfin l'article 45 qui réprime quiconque transmet le VIH à autrui de façon délibérée ou volontaire.
Oui, et maître, justement, l'article 45 a été tout simplement abrogé. Dites-nous pourquoi.
L'article 45 a été supprimé à cause de certaines raisons qui sont évidentes. Notamment, ces raisons sont sur le plan international. Il y a des éléments, des réponses, des facteurs qui font que toutes les lois du monde qui punissent le VIH sont contre-productives en matière de la réponse efficace. Et sur le plan national, il a été analysé que nous disposons d'autres lois qui répriment sévèrement ces comportements criminels de la transmission à VIH, et on pourrait évidemment se référer à d'autres dispositions d'ordre général que de laisser une disposition, la disposition d'abord de la Constitution en tant que la loi fondamentale qui réprime toute forme de la discrimination à l'endroit ou à l'égard de la personne et qui trouve son fondement dans cette constitution, mais également il y a donc l'article 45 qui réprime. Or, le fait de condamner, de criminaliser le VIH aggrave la vulnérabilité, aggrave la stigmatisation, la discrimination. La loi fondamentale interdit toute forme de discrimination à l'égard de la personne. Et donc, cette loi ne peut jamais avoir cette disposition en son sein parce que ça ne va pas favoriser la lutte contre le VIH. Les gens vont se replier, les gens vont se cacher, les gens ne vont pas se faire dépister parce qu'ils connaîtront leur statut et l'élément volonté va être prouvé par rapport à ça.
Oui, pour terminer, maître, on a constaté une sorte de contradiction entre les articles 37 et 39 dans cette nouvelle loi. Comment, dans la pratique, on peut lever cette contradiction?
Il n'y a pas vraiment contradiction comme telle, mais simplement la volonté de la société civile en travaillant pour ce changement de cette disposition était justement que la loi permet à ce qu'un mineur puisse se faire dépister avec ou sans consentement de parents ou du tuteur légal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous félicitons nos parlementaires parce qu'ils ont pris en compte 4 articles. Nous félicitons le chef de l'État et à qui a promulgué la loi. Mais le problème se trouve à l'article 37 qui n'a pas été changé pour des raisons évidentes pour tout juriste. D'abord, il y a le problème de la capacité du mineur de décider parce que l'enfant ou le mineur n'a pas la volonté. Et donc, le fait de contracter un médecin pour se faire dépister, il y a déjà un contrat. Et donc, il donne sa volonté. Ça, c'est sur le plan des droits. C'était un problème parce que la loi spéciale ou ordinaire doit se conformer à la Constitution. Et la loi fondamentale reconnaît l'âge de 18 ans pour le mineur. Autre élément de fait, c'est un élément médical technique. C'est la continuité, la continuation de la prise en charge de l'enfant. L'un enfant qui se fait dépister seul, mais qui doit être accompagné chez ses parents, ça pose un problème. Il doit prendre son médicament, il doit prendre psychologiquement, il doit être accompagné spirituellement, alimentairement. Et donc, sa vie, c'est chez le parent. Et donc, ils ont dit, ça pose un problème si un enfant se fait dépister seul et que de l'autre côté, les parents doivent l'accompagner, doivent l'encadrer parce qu'il est mineur.
Donc, maître Serge Tamondele, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Nous aurons cette page par le quartier général de la MONUSCO à Kinshasa, où Mme Leila Seroudi a reçu mardi dernier une délégation des membres de la SADC. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a fait avec ses hôtes le point sur la situation politique et sécuritaire, particulièrement sur l'évolution du processus électoral en cours, ainsi que l'appui de la mission onusienne à ce processus. Composé de 10 membres du Conseil consultatif électoral, du secrétariat et du bureau de liaison, cette délégation est en visite de travail dans la capitale congolaise. Elle était conduite par Dorothy de Gabriel du Malawi. De Kinshasa, rendons-nous à Kananga au Kasaï central dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail annuel 2018. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD apporte son appui à l'organisation par CAFCO, cadre de concertation de la femme congolaise, d'une session de renforcement des capacités des femmes candidates aux élections provinciales et législatives, ainsi qu'aux femmes leaders sociales de la province. Cette session s'ouvre ce mardi 31 juillet et se clôturera le 4 août prochain. Elle a pour objectif d'assurer le coaching de ces femmes pour les préparer aux échéances électorales en cours dans le pays. Enfin, grande dans le camp de réfugiés burundais de Lusenda et Mulungwe, nous sommes dans le territoire de Fizio Sud-Kivu. Le HCR et la CNR appellent au calme. En effet, et près de 35 000 réfugiés burundais pensionnaires de ces deux camps se plaignent de ne pas être servis comme d'habitude en nourriture par le Programme alimentaire mondial PAM. Après leur élection lundi 23 juillet 2018, en nouveau mandat de 2 ans, les membres de ce comité directeur de ces réfugiés et les chefs des villages envisageaient de descendre dans les rues en signe de protestation. Mais le chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés, Maître Sami Mukombozi, les en a dissuadés. Et pour ce dernier, les réfugiés burundais devraient prendre leur mal en patience, estimant que le service du PAM a connu pour ce mois un retard dû notamment à des litiges techniques liés aux cartes de rations alimentaires pour ces réfugiés.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous revenons ce dimanche sur l'interview de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC concernant l'appui ou le soutien de la MONUSCO au processus électoral en République démocratique du Congo, et cela après les déclarations de certaines autorités congolaises sur l'autoprise en charge des élections. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Lali Koko.
Madame Leila Zerougui, bonjour.
Bonjour.
Le ministre congolais des Finances, Henri Yael Moulang, a confirmé la volonté du gouvernement de financer seul les élections. Il a dit jeudi 12 juillet dernier à la plénière de la tripartite gouvernement CENI-CENSA organisée en vue d'évaluer l'état d'avancement du processus électoral. À propos de la tenue de ces élections, Peut-on craindre, madame, qu'en l'état actuel des relations MONUSCO-gouvernement, sur les élections bien entendu, le volet électoral du mandat de la MONUSCO ne soit pas exécuté?
Absolument pas. Je ne crois absolument pas que nous avons des relations très cordiales avec les autorités. Nous travaillons et avec les autorités et avec, bien évidemment, les autres parties prenantes dans ce processus. Le gouvernement envisage d'assurer l'organisation et le financement des élections par ses moyens propres. Je pense que s'il arrive, c'est une excellente chose. Ça veut dire qu'on a d'abord maîtrisé le processus d'organiser des élections, ça c'est important. Deuxièmement, ça veut dire qu'il y a volonté de mettre les moyens pour organiser des élections. C'est aussi une bonne chose. Nous n'avons pas un mandat d'organiser les élections, nous avons un mandat d'appui aux autorités dans l'organisation des élections. S'ils peuvent le faire sans nous, ça ne gêne absolument pas. Le mandat n'a pas été conçu pour imposer un appui logistique au gouvernement. Le mandat a été mis en place pour dire s'il y a des problèmes, si le gouvernement n'est pas en mesure d'organiser les élections et de les financer, la communauté internationale est là pour assister. Mais ils nous ont dit de rester prêts dans le cadre de l'appui, d'apporter l'appui en cas de besoin, en cas de situation de force majeure, mais ça n'enlève pas notre implication dans les élections, puisqu'on a un mandat qui va au-delà de l'appui logistique. L'appui logistique est une partie du mandat.
Donc, si je comprends bien, madame, c'est que la MONUSCO est prête à appuyer le gouvernement si celui-ci lui demande en ce qui concerne justement le processus électoral.
Nous le faisons déjà, nous travaillons ensemble et nous nous préparons pour justement le volet qui concerne l'appui logistique. Ce que je veux passer comme message, si les autorités de la RDC, dans ce grand pays continent, ils peuvent organiser leur élection seuls, et ils peuvent mettre les moyens qu'il faut, ils y arrivent, et ça marche, nous devons être contents.
Vous y croyez sincèrement, madame?
Jusqu'à présent, les choses ils ont été faites. Le 9 février 2018, lorsque je suis arrivée, les gens me disaient « Est-ce que vous y croyez ?» En avance, les choses sont en train de se faire. Pourquoi voulez-vous que je doute alors que les candidats ont mis les moyens? Je veux dire, regardez les partis politiques qui comptent dans ce pays. Pas seulement la majorité, le MLC, l'UDPS, le UNC, tous ces partis, ils se sont présentés, ils ont payé. Pourquoi voulez-vous que moi, assise ici à Kinshasa, je doute?
Il y a une question qui continue à diviser les acteurs politiques à quelques 6 mois de la tenue des élections. Il s'agit de la machine à voter. Vous savez, conformément à votre mandat, la mission de mener de bons offices, quelle est à ce niveau votre action pour amener les différentes parties au consensus?
C'est une question qui continue à diviser les Congolais. Nous travaillons avec eux pour sensibiliser, parce que c'est une décision souveraine. On n'a pas, nous, le droit ou le pouvoir de dire « faites ou ne faites pas ça », mais nous essayons de convaincre tout le monde, le gouvernement en particulier, mais aussi l'opposition, que c'est essentiel d'aboutir à un consensus sur cette question-là. Il y a aussi des défis par rapport à faire arriver cette machine, à s'assurer qu'elle fonctionne, à s'assurer qu'elle soit, ne serait-ce que sur le plan technique, qu'elle soit sur place en temps opportun, voulu, avant les élections, et qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle marche. Ça, c'est déjà un défi. Le deuxième défi, c'est la confiance. C'est que les gens aient confiance dans cet outil qui peut, dans un autre contexte, être juste un outil, mais qui, dans le contexte de la RDC, il est au cœur de la contestation. Donc, il faut que les partis discutent de ça, travaillent sur les moyens de faire un contrôle pour s'assurer à ce que, même avec la machine, on a accès à l'information. Les représentants de la majorité et de l'opposition, quand le temps arrive, s'entendent, construisent la confiance et arrivent à ce qu'ils aillent aux élections avec un minimum de consensus.
Madame la représentante spéciale, je vous remercie.
Mmh.
La cité de Kanyabayonga, éclairée depuis mardi dernier grâce à un projet à impact rapide de la MONUSCO, ce projet, initiative du premier bataillon indien de la mission onusienne, consiste en un ouvrage d'éclairage public à panneaux solaires remis officiellement à la population de cette cité située à 150 km au nord de Goma, au nord Kivu. C'est un reportage de Bernard Nyangi.
Kanyabayonga, une cité en expansion, accueille de plus en plus de déplacés dans cette zone affectée par l'activisme des groupes armés, dit le commandant du 1er bataillon indien de la MONUSCO. Et pendant qu'un banditisme urbain s'y développe, il était nécessaire d'initier un tel projet, ajoute le colonel Ajay Kumar du bataillon indien.
C'est pour mettre le mouvement des populations plus sécurisé durant la nuit que ce projet a été conçu.
Depuis que les premières lampes de cet éclairage public sont allumées la nuit, effectivement, les cas de banditisme sont enregistrés de moins en moins, ajoute pour sa part le fonctionnaire délégué du gouverneur et chef de la cité de Kanyabayonga, Eri Paloku.
Le premier projet a été exécuté par CRSM. Il y a eu des imperfections. Depuis que Jour Nouveau a corrigé des pannes, nous avons moins de cas de vols qui nous parviennent régulièrement.
Initié en 2015, ce projet a été exécuté par deux organisations locales pour un total de $14,500 américains. 59 pylônes portant des lampes solaires ont été installés à travers la cité. Un moyen, selon le chef des bureaux de la MONUSCO Goma, de promouvoir l'économie locale, mais aussi de faciliter aux forces locales de lutter contre l'insécurité et la criminalité. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
La question de la criminalité à Kinshasa a été abordée à la conférence des Nations Unies du mercredi 18 juillet. Suivez.
Guy Oloume, RTNC de Développement. Différents quartiers de Kinshasa enregistrent actuellement plusieurs cas de violation des droits de l'homme, orchestrés par de jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Munis des armes blanches, ces civiques attaquent, frappent à l'aide de machettes, estorque de biens de noctambule, la population aussi par légitime défense appréhende ce malfrat et lynche, voire exécute ces derniers par la justice populaire, ce qui crée un cycle d'insécurité. Où se situe le BCNUDH? Enquêtez-vous également sur cela? Aucun rapport régulier n'est fait par vos instances sur cela. Pourquoi?
Bon, d'abord, vous décrivez un phénomène qui relève de la criminalité, de la délinquance. Le phénomène Kuluna est connu à Kinshasa. Et je crois qu'il y a une opération aujourd'hui de la police congolaise qui tend à juguler cette criminalité-là. Ce qui nous préoccupe, nous, en réalité, c'est davantage que l'opération policière qui est en train d'être, qui se mène aujourd'hui pour adresser la criminalité urbaine soit conforme au respect des droits de l'homme, qu'il y ait d'exécution extrajudiciaire comme ce fut le cas avec l'opération Likofi, qu'on n'ait pas une opération Likofi bis. Il faut, je pense, travailler. Il y a des causes structurelles à cette criminalité-là. Les populations, évidemment, leur sécurité, c'est l'État qui a la responsabilité de la sécurité de la population, de la protection des biens et des personnes. C'est à la police de répondre aux phénomènes d'insécurité. Se rendre justice doit être définitivement découragé et proscrit. Je comprends la colère qu'une population peut sentir suite à une agression violente avec usage de machettes, mais ça, on ne peut pas justifier que des personnes civiles puissent rendre justice dans un pays qui a des institutions qui peuvent répondre de ces actes-là. Mais il faut travailler dans la prévention. C'est toujours pour revenir au lien avec le thème de la célébration du centenaire de Mandela. Je crois qu'il faut lutter contre la pauvreté. Il faut adresser les causes structurelles. Le désœuvrement, la promiscuité, les échecs scolaires sont des éléments explicatifs de cette délinquance qui ne justifie pas la violence encore une fois. Elle a proscrit cette violence. Ces Kuluna-là doivent être poursuivis, arrêtés et jugés. C'est la réponse. Mais pas être exterminés comme, parce qu'ils ont des droits aussi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux dates à retenir, 29 juillet, journée internationale pour la diversité socioculturelle et pour la lutte contre la discrimination, et le 30 juillet, journée internationale de l'amitié. fin de ce numéro de Max UN à la mise en onde. Willem Lungamba, Honoré Missenga Kalala, au reportage à la réalisation, Jean-Pierre Elali Koko, au reportage à la coordination, Martin Sebujango à la supervision, Babel Pongo à Massimango à la présentation. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bon dimanche.